Jean-Noël Vieille, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef économiste d'HPC. On va parler avec vous de marché et de perspectives sur ces marchés. Alors, on attendait beaucoup de la réserve fédérale américaine qui a donc donné son, je ne sais pas si on peut parler de canevas, sa ligne de route sur les prochains mois. Est-ce que pour vous, elle est suffisamment claire?
Oui, je pense que d'ailleurs, ça a été un petit peu une surprise puisque si on se rappelle comment les marchés anticipaient ce que la Fed allait dire. Bon, il n'y avait pas d'enjeu sur le fait de savoir si elle allait augmenter ses taux en septembre. En revanche, la ligne de route qu'elle a donnée a quelque peu surpris, et on l'a bien vu d'ailleurs avec une réappréciation du dollar, puisque le dollar était revenu quand même autour de 1,20. Et pourquoi? Parce que, en dépit, c'est là où il y a eu la surprise, en dépit d'une baisse de l'inflation qui faisait que beaucoup se disaient finalement la Fed n'ira pas. Ne fera pas de hausse de taux en 2018 et on s'attendait, en 2017, et on s'attendait même seulement à deux hausses de taux en 2018. Et là, en fait, elle a réaffirmé finalement sa croyance en un retour de l'inflation, considérant que la baisse de l'inflation qu'on venait d'avoir était simplement des raisons un peu conjoncturelles, avec les histoires des ouragans qui jouent un petit peu, une baisse un peu particulière dans le secteur des télécoms, semble-t-il. Donc, elle a réaffirmé probablement une hausse des taux, en tout cas sur 2017, on peut imaginer que ça sera plutôt en décembre. Et ensuite, trois hausses de taux sur 2018, là ça a été plutôt une surprise, avec en plus donc une réduction de la taille du bilan de la Fed.
On a l'impression du côté des investisseurs que sur cette partie, en tout cas hausse de taux, quand on regarde les sondages, pour l'instant, ils n'y croient pas trop.
Alors, les sondages étaient effectivement, il y avait à peu près, on était remonté un petit peu quand même, on était remonté à peu près à 50%. Bon, il faut voir après, il faut digérer tout ça. Probablement que ça remontera parce que... Alors après, c'est vrai que reconnaissons quand même que la croissance économique américaine est quand même meilleure. Moi, j'ai vu par exemple quelques entreprises installées aux États-Unis la semaine dernière qui en fait montrent bien quand même que les hausses salariales commencent à partir. Donc c'était quelque chose qui ne se voit pas encore. Mais je pense que si la Fed est aussi certaine maintenant de... Enfin, si elle a dit ça, c'est que derrière, je pense qu'ils savent effectivement que plus que la hausse des matières premières, dont on sait que ça va rester un peu compliqué, je pense que la hausse de l'inflation viendra par la hausse des salaires.
Donc, réduction du bilan hein, de la réserve fédérale américaine, est-ce que ça peut avoir un impact sur la politique monétaire aujourd'hui de la Banque centrale européenne, sachant pour l'instant... En tout cas, tout le monde dit qu'il y a un peu une synchronisation ou en tout cas une coordination.
Alors, c'est l'enjeu principal d'ailleurs. Je pense que ce sont les vraiment ce qui fait douter un petit peu les investisseurs, plus qu'on en parlera peut-être après des problématiques internationales. Alors, sur cette question, c'est vrai qu'on n'est quand même pas dans le même cycle économique. Même si, je dirais en dérivé, c'est-à-dire on sait qu'on a une croissance qui est un peu meilleure en Europe aussi, mais on est quand même plus faible qu'aux États-Unis et on ne vient pas d'aussi loin. Donc, il est vrai que la BCE va avoir quand même du mal, si la Fed fait effectivement ses quatre hausses de taux entre maintenant et 2018, de ne pas bouger. Et on voit bien qu'il y a une espèce de préparation quand même probablement du marché qui est faite par un certain nombre de membres de la BCE, pour dire qu'on pourrait peut-être avoir une hausse des taux. Mais ça, c'est clairement pas anticipé. Quand on regarde l'évolution des taux souverains ou quand on regarde les anticipations, c'est pas fait. Je pense qu'il y aura, ça sera nécessaire, et ça sera nécessaire aussi pour une raison fondamentale, c'est que ça, je ne crois pas quand même que la BCE puisse maintenir un niveau de l'euro aussi élevé. Donc si la Fed bouge, il faudra quand même qu'elle essaie d'accompagner ce mouvement pour qu'il n'y ait pas de décorrélation trop forte.
Alors, ce qu'on a vu aussi au cours des derniers mois, ce qui s'est passé sur les marchés émergents, qui ont repris de l'intérêt pour beaucoup d'investisseurs, on le voit en termes de performance, alors sans doute lié à ce qui s'est passé aux États-Unis, ou en tout cas au début des craintes, et puis par la suite, finalement, les investisseurs ont été confortés dans leur idée. Ces marchés émergents qui se tiennent bien, c'est aussi un signe, enfin quelque chose de symptomatique de cette année 2017.
Oui, c'est toujours compliqué les marchés émergents quand même, parce que ce sont des marchés quand même très matières premières pour la plupart. Le marché principal quand même, on va parler, on peut dire un mot de la Chine. On attend quand même beaucoup du prochain congrès du Parti communiste chinois qui va se tenir le 18 octobre. probablement. Alors, le risque qui a été désamorcé, c'est-à-dire un risque un peu d'éclatement du crédit, et ça a l'air d'être plutôt bien maîtrisé. Donc, effectivement, si on estime que le dollar peut remonter, et on sait que ce sont des économies aussi qui sont très dollarisées, donc c'est plutôt bon pour elles. On a peut-être un frein en moins. Et puis, l'amélioration économique, de toute façon, on le voit bien avec la Chine, l'Inde aussi, qui va être probablement un moteur intéressant. C'est un peu logique, même si, quand on regarde les valorisations, on peut considérer que certains marchés sont relativement élevés. Mais c'est vrai qu'il y a une dynamique. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des dynamiques de flux et que les émergents vont bénéficier aussi de ça.
Un marché toujours particulier, c'est le marché japonais. Qu'est-ce qu'on peut en dire sur les profits, enfin, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on peut en attendre encore?
Alors, ce qui est important aussi là, c'est que du côté de la banque centrale japonaise, elle suit à peu près le mouvement, c'est-à-dire de rester sur une politique quand même très accommodante. Et ça a été plutôt positif. Et on a le sentiment aussi que la croissance économique, qui a été quand même très atone, est en train aussi de repartir. Donc, voilà, c'est une économie qui est extrêmement compliquée, mais c'est vrai qu'en termes de valorisation, je pense que c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur l'ensemble des émergents. Le Japon n'est pas un pays émergent, mais enfin, c'est dans cette zone un petit peu particulière. Je pense qu'effectivement, on peut revenir sur le marché japonais aujourd'hui.
Le mot de la fin, dans ce contexte, même si on n'aime pas toujours hein, les mois d'octobre, les boursiers n'aiment pas trop ces périodes-là, l'allocation d'actifs, comment elle évolue?
Sans être très original, parce que je crois qu'il y a un consensus là-dessus, mais moi j'y crois assez, c'est de plébisciter plutôt aujourd'hui. Bon, on sait que voilà, les taux vont quand même monter, il va y avoir des flux un peu compliqués probablement sur la partie obligataire. Les actions américaines, c'est quand même très élevé, surtout s'il y a quand même une hausse des taux. Bon, je pense que tout va dépendre aussi du programme fiscal que va annoncer et du programme économique de Trump. Donc finalement, en étant simple, revenir sur les actions européennes qui sont vraiment loin des plus hauts semble être la chose qui devrait être assez intéressante pour aller sur la fin de l'année.
Merci Jean-Noël Vieille.
Merci.